Il est 12h15, vous êtes bien sur les ondes de Canal B 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade farte.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond. Résistance. Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, et oui, il se passe toujours quelque chose à Rennes. Bienvenue dans 3 en 1, votre rendez-vous d'actualité locale sur Canal B. 3 en 1, c'est l'émission d'information que vous retrouvez 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi de 12h15 à 12h45, et aussi en rediffusion les lendemains, c'est-à-dire les mardis, jeudi et samedi, le matin à 8h15. Et au sommaire de ce vendredi 24 octobre, l'info du jour, c'est le nombre de personnes décédées dans l'isolement et à la rue qui ne cesse d'augmenter, malgré les promesses du président de la République qui déclarait que fin 2017, plus personne en France ne dormirait dans la rue. On y revient dans notre première partie d'émission. Et puis nous parlerons de la maison d'édition indépendante et rennaise FIER, qui malgré ses succès éditoriaux se voit contrainte d'organiser une collecte de dons pour sortir la tête de l'eau. Nous en parlerons avec sa fondatrice Mélanie Mola. L'actualité, c'est aussi l'évacuation par les forces de l'ordre des personnes migrantes qui survivaient tant bien que mal sous des tentes dans le parc de Morpa à Rennes. La préfecture parle d'une mise à l'abri, mais l'association Utopia 56, qui défend les droits des personnes en situation d'exil, reste sceptique. On en parle en fin d'émission avec un reportage qui vous emmènera au parc de Morpa à l'occasion d'un rassemblement organisé par Utopia 56. Et on commence tout de suite avec l'info du jour. L'info du jour de ce vendredi 24 octobre sonne comme une alerte. À Rennes, cette année, 54 personnes sont décédées dans la rue et ou dans l'isolement. Elles étaient 2 fois moins l'année dernière et 3 fois moins en 2023. Si les chiffres augmentent drastiquement ces dernières années, cette problématique pour autant n'est pas nouvelle. Les décès dans la rue ou dans l'isolement augmentent en réalité depuis plus de 10 ans, comme le relève le collectif national Les Morts dans la rue dans son étude annuelle. Même son de cloche pour ce qui est des personnes vivant ou décédant dans l'isolement. D'après le dernier baromètre publié à ce sujet en septembre 2025 par l'association Les Petits Frères des Pauvres, près de 750 000 personnes âgées vivent aujourd'hui en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans aucun contact avec leur famille, leurs amis ou leurs voisins. 750 000, pour que vous vous imaginiez, c'est l'équivalent de la population de la métropole nantaise. On parle là aussi d'une hausse terrifiante. En moins de 10 ans, le nombre de personnes touchées par l'isolement a augmenté de plus de 150%. Et ce qu'on découvre en plus ces dernières années, c'est que l'isolement ne touche plus seulement uniquement les personnes âgées, mais qu'il se répand au sein de plusieurs générations et touche même maintenant les 15-25 ans, selon le rapport annuel sur les solitudes publié par la Fondation de France en 2024. Pour que les personnes décédées dans la rue ou dans l'isolement ne partent pas dans notre indifférence, le collectif citoyen Dignité Cimetière de Rennes leur organise aujourd'hui, vendredi 24 octobre, un hommage. Il aura lieu de 15 à 18 heures, place de la mairie à Rennes. Un second hommage aura lieu vendredi 31 octobre à 16h30 au cimetière de l'Est pour participer au fleurissement des tombes des personnes qui sont décédées. Et pour digérer toutes ces informations, on écoute un petit morceau de musique sur Canal B.
Non, niente da offrire. Non, niente da dare. Non, niente da offrire. Non, niente da dare. Ogni giorno peggiora.
Nienta da offrire, vous écoutiez le groupe Ada Oda sur Canal B. 3 en 1 sur Canal B et on commence tout de suite avec notre sujet d'interview du jour. C'est une maison d'édition rennaise que nous recevons aujourd'hui et vous la connaissez peut-être déjà si vous êtes auditeur ou auditrice régulière de Canal B ou si vous êtes un lecteur ou une lectrice invétérée. Mélanie Mola est fondatrice de la maison d'édition indépendante Fier. Bienvenue Mélanie Mola.
Bonjour, merci beaucoup.
Nous vous recevons aujourd'hui, Mélanie, car vous organisez une campagne de dons jusqu'au 1er novembre, si je ne me trompe pas, on en parlera en détail juste après. Alors, généralement, on organise des levées de fonds, soit lorsqu'on lance un projet et qu'on a besoin d'un capital, soit une cagnotte lorsqu'on est dans une situation d'urgence, mais j'ai l'impression que ce n'est pas votre cas. Alors, à quelle occasion lancez-vous cette cagnotte ?
C'est une très bonne question. J'ai essayé d'expliquer le plus au juste dans la campagne Ulule pourquoi est-ce qu'on la lançait. Aujourd'hui, les maisons d'édition ne sont pas rentables. Il y a des études qui l'ont montré sur les maisons d'édition indépendantes, ce qui veut dire qu'en général, on est obligé de mettre de l'argent dedans pour qu'elle puisse fonctionner. Concrètement, aujourd'hui, on a des dettes d'environ 4 000 euros, 4 500. On est le montant global qu'on demande est de 5 000 euros parce qu'il y a les frais Ulule aussi qui sont dedans. Et on a ces dettes-là liées dès le départ au fonctionnement. Du coup, pour lancer l'activité, j'ai dû faire un prêt bancaire de 20 000 euros pour pouvoir lancer les 4 premiers livres. Mais pour que le projet fonctionne et puisse être rentable, il fallait que je lance en même temps des formations en entreprise et du conseil en entreprise. Donc, c'est-à-dire lancer 2 projets dès la première année. Donc, ce qui fait qu'on a pris du retard sur d'autres projets qui permettaient de gagner de l'argent, d'avoir le plus de marge pour la maison d'édition, pour lancer d'autres projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je n'arrive pas à me constituer une trésorerie. Donc, il y a à peu près 4 000 euros de dettes, d'où l'idée de faire une campagne de dons.
Alors, pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, pour lancer la maison d'édition, vous avez déjà eu besoin de lancer une autre activité économique à côté. Et aujourd'hui, les marges que vous faites avec vos ventes sont trop faibles pour pouvoir payer vos différents fournisseurs ou prestataires.
Exactement. Ça, c'est le modèle du livre, en fait. Si on prend un prix de vente de 10 euros, il y a une partie qui va aller à l'État, il y a une partie qui va aller au libraire, qui le libraire lui-même a ses propres charges. Sur 10 euros, il y a 3 à 4 euros qui vont à la librairie. Il y a la diffusion et la distribution. Et là, on est à peu près autour de 30-40%. 30%, l'imprimeur, où on est 10-15 et ces dernières années, ça a tendance à augmenter. Et au final, la maison d'édition récupère à peu près 10 à 20% du prix de vente, donc 1 à 2 euros.
Et ce sont ces 1 ou 2 euros qui permettent à la maison d'édition de rembourser les frais engagés, les frais de traduction, d'illustration, de droits d'auteur. Mélanie Mola, vous essayez de suivre une chaîne de production plus responsable, de mieux rémunérer les auteurs et les autrices. Est-ce que ces méthodes-là, qui sont plus justes, elles vous ralentissent aussi dans votre constitution d'une trésorerie ?
Oui, tout à fait. Dès le départ, en fait, l'idée, et elle peut paraître simple et normale, je voulais rémunérer tout le monde. Dans le milieu de l'édition et dans la culture en général, c'est facile de trouver des personnes qui veulent travailler bénévolement.
Comment on explique ça ?
Je dirais qu'il y a un côté où c'est un peu la beauté de l'art, où on se dit, c'est pas grave si c'est gratuit parce que ça va être donné à plus de monde.
C'est le métier passion.
Exactement, ouais. Le métier passion, où on peut faire des heures en disant, c'est pas grave, mais c'est pas comme ça qu'on va se rémunérer et faire en sorte de payer notre loyer, tout simplement. Donc, dès le départ, je voulais rémunérer tout le monde. Alors, on n'est pas sur une rémunération qui est flamboyante non plus, mais c'était de rémunérer, essayer de rémunérer à une juste valeur le travail de chacun, chacune. Ça, c'est un modèle que je veux garder, de faire en sorte que quelqu'un qui travaille sur la maison d'édition soit rémunéré à un moment donné. Pour moi, ça me semble normal,
oui,
comme dans tout modèle économique.
Ça me semble également normal. C'est quel genre de métier qui, aujourd'hui, peuvent être faits gratuitement
Il y a de tout. Moi, on m'a proposé de faire de la traduction gratuitement, de l'édition, les illustrations parfois aussi.
Oui, donc des choses qui sont vraiment constitutives et essentielles du métier de l'édition. On a parlé donc de la chaîne de production du livre et du secteur économique de l'édition qui est par essence compliqué, dans lequel il est compliqué de faire de grosses marges et du coup de se constituer de la trésorerie. On a aussi parlé de vos méthodes de travail que vous voulez plus justes et qu'on pourrait aussi qualifier de juste normal, c'est-à-dire rémunérer les gens pour leur travail. Ça fait maintenant un an officiellement que la maison d'édition Fier est lancée. Vous avez sorti 4 livres, si je ne me trompe pas.
Exactement.
C'est quoi le bilan des ventes en termes de volume et aussi de réception dans le public ?
Aujourd'hui, pour donner plus d'éléments, on imprimait, donc le premier te parlait encore, on a imprimé 1200 exemplaires et les autres 1500, ce qui est un gros volume pour une petite maison d'édition. Généralement, on est autour de quelques centaines jusqu'à 500. Sur la globalité, on a dû vendre à peu près 55% de notre stock en un an, voire moins, en fonction des titres.
C'est pas mal, non ?
Ce qui est vraiment bien. J'ai pas de diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui est le commercial entre la maison d'édition et la librairie. Aujourd'hui, on est dans à peu près 70 librairies. Donc, on est bien. Les lecteurs adorent. Les lecteurs attendent les prochaines sorties. Les librairies aussi nous soutiennent. C'est une maison d'édition qui fonctionne. Mais pour autant, économiquement, on n'est pas rentable. Et on le saura pas s'il y a que du livre. Parce que l'industrie du livre fait que il faut produire le plus de livres, mais en face, les libraires, ils sont épuisés avec les deux rentrées littéraires. Il y a deux rentrées littéraires où les libraires doivent avoir entre 300 et 500 livres à lire, ce qui est impossible. L'industrie du livre veut qu'on produise un maximum de livres, ce qui peut être économiquement très compliqué, parce que s'il n'y en a aucun qui fonctionne, ben en fait, c'est un échec. Donc moi, l'idée, c'est de sortir moins de livres, et d'avoir d'autres choses pour permettre à la maison d'édition d'exister.
C'est-à-dire que vous, à la maison d'édition indépendante Fier, vous devriez produire et sortir un maximum de livres pour être le plus représenté dans les librairies, c'est ça ?
Le plus représenté, le plus de chances d'être visible en librairie aussi, et de vendre le plus possible. Il y a différents types de modèles économiques pour le livre, mais parfois on va conseiller d'en vendre 5, 6, 7, 8, 9, 10 par an. Toute seule, c'est pas possible. C'est un travail monstre qui est pas tenable. Mais le risque aussi, c'est d'en face de pas avoir des livres qui sont forcément suivis, où on va pas vérifier la qualité du livre et juste sortir du livre pour du livre. Et c'est pas ma volonté.
C'est quand même un paradoxe, puisque la maison d'édition Fier fonctionne bien, le public est au rendez-vous. Vous êtes distribué partout en France, mais avec un ancrage local quand même fort.
Oui.
En quoi ça influe votre activité de maison d'édition d'être basée à Rennes ?
C'est vrai que quand je vais à Paris, enfin j'ai déjà eu le retour à Paris où on me disait mais pourquoi t'es pas venu à Paris, ça fonctionnerait mieux, etc. J'ai pas envie. Ça change parce que déjà au niveau local, on a beaucoup de maisons d'édition aussi à Rennes. Il y a un ancrage et une solidarité aussi qui se fait. Je pense là directement aux éditions Pantera, une maison d'édition rennaise créée par Céline et Marianne autour des romans graphiques et de la BD, où on se soutient énormément, on essaie de se voir régulièrement pour échanger en tant que femme éditrice, de donner des conseils aussi aux éditions Timelapse aussi créées. On s'est créées quasiment en même temps. Pour moi, il y a quelque chose de différent, plus local, plus ancré, de sortir aussi de ce côté la littérature, tout se passe à Paris, la culture, tout se passe à Paris. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de montrer qu'il y a d'autres choses aussi, que les questions LGBT, ça concerne pas que Paris, qu'on existe aussi en dehors.
Est-ce que vous savez si les lecteurs et les lectrices, ils viennent chercher spécifiquement dans votre édition des écrits queer, ou si les gens tombent plutôt par hasard sur vos romans ?
Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues chercher. Parce que c'est une maison d'édition queer. Je crois que le plus mignon que j'ai eu, c'était autour du livre « À la fin, nous ferons histoire », qui traite de quatre adolescents pendant la manif pour tous. Il y a une adolescente qui vient, qui voit le livre, qui glousse un petit peu et qui revient une demi-heure plus tard avec sa mère et son frère. Et en fait, elle s'appelle Juliette et son amoureux s'appelle Roman. Et donc, elle le montre à sa mère et son frère. Et du coup, sa mère lui a acheté pour l'offrir à son amoureuse. Mais je crois que c'est plus elle qui l'a lu. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Même moi, en tant qu'ancienne ado queer, j'aurais pas pu avoir ce type d'interaction. J'ai trouvé ça très chouette de voir l'évolution aussi.
Est-ce que vous diriez finalement que votre engagement à la fois pour les méthodes de production, de modèle économique et à la fois pour les questions de représentativité des paroles queer, il vous porte plutôt ou il vous freine dans votre développement économique ?
Personnellement, il me porte. Je pense qu'économiquement, ça peut freiner. J'ai déjà été suivie par des incubateurs ou d'autres personnes qui m'ont incité à enlever queer de maisons d'édition.
De vos communications.
De mes communications, parce que ça pouvait bloquer. Mais pour moi, c'est politiquement et personnellement, il est important de le garder. Donc je continuerai pour.
On va en reparler peut-être un peu plus tard dans cette interview. Avant ça, je vais vous lire un court extrait d'un texte qu'on a reçu la semaine dernière à la radio. Alors j'ouvre les guillemets. S'agissant du livre et de la lecture, la politique de l'État a pour objectif fondamental de soutenir le développement et la diversité de la création littéraire et de promouvoir la diffusion la plus large possible du livre et des pratiques de lecture. La régulation de l'économie du livre ont ainsi pour ambition de préserver la diversité et la qualité de la création en maintenant les équilibres vertueux qui prévalent entre les différents acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs et libraires. Alors c'est ce qu'on peut lire dans le projet de loi de finances. Alors en date du 15 octobre 2026, peut-être qu'un nouveau nous sera soumis dans les prochains jours. En tout cas, cette profession de foi, est-ce qu'en tant qu'indépendante ayant lancé son projet d'édition, vous la trouvez fidèle à la réalité de l'accompagnement qui peut vous être proposé par l'État ou d'autres structures publiques ?
Non. Non, pourquoi ? Parce que les subventions, que ce soit dans le livre et dans la culture en général, sont plus liées à des projets. Donc les subventions sont liées à des projets spécifiques. Ce qui fait qu'au final, on n'accompagne pas la structure en tant que telle. Si on fait un parallèle qui est peut-être pas comparable, mais qui existe aujourd'hui, par exemple, si je voulais développer une application sur les IA, en utilisant l'IA, je pourrais avoir des dizaines de milliers d'euros sans problème. Dans l'édition, ce n'est pas réel. Déjà, pour avoir ces subventions, la maison d'édition doit avoir un an d'existence et avoir sorti au moins 3 livres. D'où le fait que j'en ai sorti 4. À partir d'aujourd'hui, je peux demander des subventions, mais sur des projets spécifiques où je dois montrer que économiquement, je pourrais les payer si jamais je n'ai pas la subvention. Si on n'accompagne pas dès le lancement, pour moi, on n'accompagne pas.
Si on essaye de résumer un petit peu ce que vous venez de nous dire, mais peut-être d'élargir aussi un peu, est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre projet de diversification des voies de la littérature ? Tout à l'heure, vous nous parliez d'un réseau un peu de solidarité à Rennes avec d'autres maisons d'édition indépendantes. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une aventure solitaire ou vous vous sentez quand même soutenu au niveau de la société, généralement, si je peux dire ça comme ça ?
Il y a Livre et Lecture en Bretagne, qui est un organisme qui accompagne tous les acteurs de la chaîne du livre. Et là, il y a vraiment des choses qui sont mises en place, des formations, un accompagnement, voilà. Il y a vraiment un réseau de soutien qui permet aussi de rencontrer d'autres maisons d'édition, qui permet ponctuellement de se sentir acteur d'un secteur, mais ça reste quand même une aventure qui est très solitaire.
C'était Flung du groupe Long Fling qui nous vient tout droit des Pays-Bas. Vous écoutez toujours Canal B. Et nous retrouvons Mélanie Mola, fondatrice de la maison d'édition rennaise Fier sur le plateau de 3 en 1. Parlons un petit peu de ce projet de représentativité, de représentation de toutes les voix de la société à travers la littérature qui est porté par votre maison d'édition. Et on peut faire un petit pas de travers avec une comparaison. Ces derniers mois, il est de plus en plus souvent question de la prise de contrôle d'organes de presse et de maisons d'édition par des hommes d'affaires aux projets politiques qu'on pourrait désigner de plus réactionnaires que progressistes, avec en tête l'exemple phare Bolloré, qui est devenu propriétaire au fil des ans non seulement de Canal, mais aussi des éditions Hatier, Grasset, Fayard et des boutiques relais partout en France. Est-ce que cette situation de concentration d'organes aux mains de quelques grands milliardaires, elle impacte aussi la vie des maisons d'édition indépendantes comme la vôtre ?
Oui, totalement, parce que déjà, il y a les rentrées littéraires, de grosses sorties qui se font dans ces maisons d'édition.
Et qui peuvent un petit peu invisibiliser vos sorties à vous.
Exactement. Et au niveau des libraires, les rentrées littéraires, la force de frappe, le fait d'avoir des diffuseurs, distributeurs, parce que ces antennes-là, au-delà d'être juste des grands groupes, ont aussi la possibilité d'imprimer en interne, ont aussi des diffuseurs et distributeurs qui vont mettre en avant leurs livres. Donc c'est pas juste la maison d'édition et le lecteur, enfin et l'auteur, c'est toute l'industrie du livre qui est dedans et qui est monopolisée au final.
On va parler justement un petit peu de la voix et l'écriture des personnes queer LGBT, parce que c'est ce projet-là que vous portez et qu'on a beaucoup parlé finalement d'économie et de secteur de l'édition, mais peut-être qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas encore les éditions Fier. Voilà, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la voix de ces personnes que vous voulez mettre en avant chez Fier ?
L'idée de base, c'est d'avoir plus de représentation LGBTQIA+, dans la littérature française, dans les romans spécifiquement. L'idée, c'est qu'on ne va pas venir parler du coming out. Parce que parfois, on a des livres, des films, des séries qui vont parler du coming out. Comme si on avait un seul, toute personne queer pourra vous le dire, il y en a 15 000 de coming out. Ou qui parlent uniquement de la relation amoureuse, comme si toute notre vie, peu importe qui on était lié à cette relation amoureuse-là. L'idée, c'est de représenter d'autres voix, d'autres choses, et au final, de permettre une pluralité, de montrer, en fait, de développer notre imaginaire, que ce soit possible d'imaginer d'autres choses, tout simplement, et qu'ils puissent parler à n'importe qui. Le premier livre dont je parlais, qui est autour du deuil, oui, Laetitia va parler de son vécu en tant que personne queer, mais la question principale, c'est le deuil. Comment est-ce qu'on fait qu'on a une relation compliquée avec un parent qui est en train de décéder, enfin, concrètement c'est ça. On a d'autres livres aussi, par exemple ces gens-là, on est sur 8 nouvelles toutes douces, en fait c'est des nouvelles qui vont faire du bien, qui vont montrer une diversité de personnages, de personnes, de corps, à qui il va arriver rien de grave, mais juste des moments de vie, et où ça fait du bien aussi de la douceur et d'avoir d'autres traits de personnes et de montrer d'autres choses aussi que c'est possible.
Vous avez donc lancé une cagnotte qui se clôturera début novembre. Avant de rappeler aux auditeurs et auditrices en quoi elle va vous être utile et surtout ce que les auditeurs et auditrices peuvent aussi gagner en échange d'un ticket de tombola ou d'une certaine contribution à cette cagnotte, si la cagnotte ne fonctionne pas et que la situation économique de votre projet se dégrade, quel levier vous aurez par la suite pour tenter de rester la tête hors de l'eau ?
Dans les leviers, il y a des discussions qui se font avec la banque, notamment pour avoir ce qu'on appelle un découvert de banque pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Pour l'instant, c'est encore en stand-by. Je pense que si la cagnotte fonctionne, ça pourra permettre d'être un levier auprès de la banque pour leur montrer l'intérêt aussi. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais ça voudra dire que le découvert se creuse et les projets qui arrivent permettront juste de combler tout ça au lieu de permettre d'aller plus loin et de proposer d'autres projets fin 2026, de projets littéraires.
Et donc on peut rappeler aux auditeurs et aux auditrices ce qu'ils peuvent trouver sur cette page Ulule et donc dans cette cagnotte ?
Tout à fait. Il y a différents packs qui commencent de 5 euros jusqu'à 100 euros. Après, le montant est libre. N'importe qui peut mettre ce que elle veut. Mais il y a différents packs qui sont proposés. À 5 euros, on a proposé un ticket de tombola. Si la cagnotte atteint les 100%, une personne sera tirée au sort pour gagner jusqu'à 50 euros de produits, on va dire, fiers, donc que ce soit dans les livres, casquettes ou chaussettes aussi. Il y a aussi la nouvelle paire de chaussettes fiers en produits dérivés qui sera proposée. On a la casquette qu'on relance et les différents livres, donc soit les deux premières sorties, les deux dernières ou un pack avec tout aussi.
Et en tant que Rennais et Rennaise, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on va pouvoir vous retrouver dans les prochaines semaines ou d'autres choses sur lesquelles on peut influer pour vous aider et faire en sorte que la maison d'édition Fier continue à vivre de manière sereine économiquement ?
Les livres sont disponibles dans la plupart des librairies rennaises, La Nuit des Temps, Nilmé, voilà, vous pourrez trouver assez facilement. Vacarme aussi va les proposer prochainement et normalement les chaussettes seront aussi disponibles chez Vacarme.
Merci beaucoup Mélanie Mola d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Nina.
On quitte les livres pour retrouver la vie réelle, et la vie réelle pour les presque 200 personnes migrantes installées tant bien que mal dans le parc de Morpa, ce fut hier matin, donc le jeudi 23 octobre, d'être évacuées par les forces de l'ordre. Dans un communiqué de presse, la préfecture d'Ille-et-Vilaine précise avoir organisé cette évacuation en lien avec la ville de Rennes afin de proposer à ces personnes une solution d'hébergement. Quelques heures après l'évacuation, un rassemblement a été organisé par l'association Utopia 56 dans le parc de Morpa pour exiger que des solutions d'hébergement soient effectivement proposées à toutes les personnes évacuées.
Utopia 56, c'est une des associations qui accompagnent les personnes en situation d'exil. Julie Beaufils et Lola Renauda se sont rendues à ce rassemblement. Elles ont pu discuter avec des bénévoles de différentes associations, mais aussi avec un représentant d'Utopia 56 et finalement avec une des personnes migrantes évacuées le matin même.
Donc j'espère qu'on va pouvoir passer, a priori.
Tu es resté dans l'état un peu
Je sais pas du tout. Nous, on était mobilisés ce matin justement pour essayer de récupérer un maximum de tentes et récupérer les affaires des personnes.
Est-ce que vous êtes rentré par là?
Alors, juste vérifier parce que c'est peut-être bien possible, ouais. On a un point de rassemblement. Le parc est fermé. Si vous en sortez, vous ne pourrez plus entrer. Ouais, bah j'imagine qu'ils ont dû fermer tout le parc et... Pour accéder, on va probablement devoir grimper. Moi, je suis Damien, je suis bénévole pour une association qui s'appelle Le Préau 35 ici à Rennes et qui accompagne des mineurs non accompagnés, donc des jeunes de moins de 18 ans. Et on leur propose des cours toutes les semaines ici à Rennes parce que c'est des jeunes qui ne sont pas scolarisés. Nous, enfin, moi, je dis on parce que c'est mes élèves, mais moi, je vais rentrer chez moi ce soir et je serai au chaud. Mais concrètement, je suis inquiet pour tous les jeunes qu'on accompagne. Au sein de l'association.
Donc là, on vient de pénétrer dans le parc de Morpa. Devant moi, donc, je peux voir beaucoup de tentes. Des tentes en bon état, des tentes un peu rafistolées, créées avec des bâches. On sent que tout est figé. Là-bas, il y a encore un doudou posé sur un canapé à l'entrée d'une tente. Il y a des cadres de lit sans matelas. C'est hyper silencieux, il n'y a vraiment plus personne. On entend juste le vent.
Moi, c'est Touchard Fabien et je suis coordinateur de l'association Utopia 56 à Rennes. Ce matin, les forces de police elles sont arrivées à 7h du matin pour procéder à une évacuation du campement de Morpa. On a heureusement entendu des rumeurs comme quoi il y aurait une évacuation. Donc nous, hier, on a pu aller voir les familles, aller voir les hommes seuls, aller voir les mineurs non accompagnés pour leur dire « Préparez au moins un sac avec vos papiers d'identité, si vous avez vos médicaments, des ordonnances, enfin toutes les choses les plus importantes. » Mais si on n'avait pas eu ces rumeurs-là, aujourd'hui, tout le monde aurait été surpris et personne n'aurait pu préparer ses affaires avec ses besoins d'urgence.
On marche avec la mobilisation. Dans le mouvement, il y a des habitants du camp qui ont été délogés. On voit qu'elles tirent leurs valises. On distingue une famille avec des enfants, des sacs plein les bras, des doudous. Est-ce que vous pouvez vous demander votre prénom ?
Je m'appelle Sendo. Ici, ça fait déjà septembre 2024 que je suis ici à Rennes. Et du coup, hier, on m'a annoncé une surprise comme quoi les policiers vont venir et puis il faut qu'on prépare nos affaires de partir. Et du coup, j'avais pas le choix. J'ai même pas mangé hier soir et j'ai resté debout. Et pour tout le monde, c'était le cas de tout le monde avec les enfants. Pour le moment, on est là avec les militants de Rennes. Et donc, je sais qu'ils sont courageux de nous accompagner, mais on ne sait pas encore la suite. C'est à eux qui vont décider de dire où on va. C'est difficile la situation en fait actuelle. Oui.
Est-ce que vous avez un endroit pour vous reposer?
Pas du tout. Je ne sais pas actuellement. Vous voyez comment je suis là. Moi, je travaille à la collecte de Rennes. Et du coup, depuis hier, parce que je me réveille à 5 heures pour aller vers Assigné, je n'ai pas de voiture. Malheureusement, je n'ai pas encore de logement ni rien. Et donc, c'est très difficile en arrivant, s'endormir, plier les bagages, tout ça, c'est très difficile.
Suite à cette évacuation, les familles avec enfants devraient se voir assigner un logement temporaire d'une quinzaine de jours, et ce, en étant dispersés partout dans le département. Aucune solution n'est pour l'instant proposée aux femmes, aux hommes seuls et aux familles sans enfants. Ils et elles sont donc une trentaine à se retrouver depuis hier soir sans solution d'hébergement et dans le flou total. Trois en un, c'est fini pour cette semaine. Merci à Mélanie Mola de la maison d'édition Rennes Pierre d'avoir été avec nous. Merci à Fabien Touchard, représentant d'Utopia 56, à Damien, bénévole du Préau 35 et aussi à Sandou d'avoir accepté de témoigner au micro de Canal B. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez en rediffusion dès demain 8h15 et puis nous serons de retour le 3 novembre à 12h15. En attendant, vous pouvez réécouter les interviews et reportages de la semaine via le podcast de l'émission, mais aussi évidemment tous les autres programmes de Canal B sur notre site internet canalb.fr. Aujourd'hui, l'émission vous était présentée par Nina et au reportage, c'était Julie et Lola. L'émission a également été préparée par Manon. Bon week-end à tous et toutes et restez avec nous sur le DAB+ et sur le 94 FM.